C'est l'heure de Gardarem la Terre, une émission produite par Radio Albitzès et diffusée sur Albitzès et Air d'Otan. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Gardarem la Terre donne la parole aux intervenants des conférences programmées sur la 40e foire Biocibel organisée par Nature et Progrès Tarn et qui aura lieu les dimanches 5 et lundi 6 juin au parc de la Bousquetariée à Groyer. Agriculture, santé, économie, habitat et énergie sont les thématiques qui seront abordées sous les chapiteaux des conférences et forums. On se penche d'ailleurs sur le volet santé avec deux invités successifs, Jean Dubovetsky, médecin, et Michel Bénard de l'association de soutien aux victimes de pesticides de l'Ouest. On entendra aussi en seconde partie une entrevue avec Loïc Blanc de la coopérative d'énergie Enercop pour parler d'énergie citoyenne. Bonne écoute. Jean Dubovetsky, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Jean, on a déjà entendu votre voix sur les ondes de Radio Albitzès assez régulièrement et c'est parti pour continuer à être régulier. Mais là, on va vous entendre. En tout cas, aujourd'hui, on vous reçoit pour présenter un petit peu une discussion que vous allez proposer sur la foire Biocibel 2022. On me rappelle que vous êtes créateur du blog Docteur Antiknock, vous êtes médecin dans un quartier populaire d'Albi et membre de la rédaction de Prescrire depuis 1988. Et vous serez donc sous le chapiteau, un des chapiteaux de la foire Biocibel pour animer une discussion sur, assez généraliste, c'est quoi être en bonne santé.
Oh, ce sera sûrement plus une discussion qu'une conférence. Hein. Alors les points qui m'intéressent d'aborder, c'est quelle est la différence entre la maladie et la bonne santé? Est-ce que, par exemple, avoir un taux de cholestérol élevé, c'est être malade? Voilà, donc je ne vais pas donner ma réponse à moi, on la garde pour la discussion. Hein. Ou bien est-ce qu'avoir le doigt cassé un peu tordu, c'est être malade? Ou bien est-ce qu'avoir une maladie génétique, c'est toujours être malade? Ou seulement parfois? Et dans quelles conditions? Ça, c'est une première discussion. Ensuite, la seconde discussion qui va avec, je pense, c'est est-ce qu'on est responsable de sa santé ou de sa maladie? Et donc là, on part un peu plus des données réelles, c'est-à-dire de qu'est-ce qui permet de prédire le fait qu'on va mourir avant les autres ou qu'on va être malade plus longtemps que les autres. Et quels sont les prédicteurs les plus importants? Est-ce que ce sont des prédicteurs qui dépendent de notre comportement ou est-ce que ce sont des prédicteurs qui sont indépendants de nous, et donc en quelque sorte, oui, on peut quelque chose, mais finalement, on ne peut pas tant que ça, ou peut-être pas tant que ça, seulement par notre comportement individuel. Peut-être que c'est par notre comportement collectif qu'on pourrait changer quelque chose. Donc là, il y a une autre discussion, et qui parle notamment des inégalités sociales de santé, ou des inégalités sexuelles de santé, et des inégalités d'information et de comportement.
Les gens pourront rebondir aussi sur quelle est la place du médecin.
Alors, je ne sais pas s'ils pourront rebondir, parce que je n'ai pas entendu parler de trampoline.
Non.
Mais
il y a beaucoup de choses. Il y a de la paille.
Mais on pourra causer.
Il y a de la paille en général, il y a plein de choses. Il y a un cirque à côté, donc on ne sait jamais.
Alors ça, c'est un troisième sujet. Tu as bien raison. C'est quel est le rôle du système de santé, en fait, dans la santé? Est-ce que c'est un rôle primordial ou secondaire et comment on peut améliorer ce rôle et faire en sorte qu'il compense les inégalités plutôt qu'il les aggrave?
La posture aussi du sachant, le médecin qui est sachant.
Ça, c'est toujours quelque chose qui me laisse un peu perplexe moi-même. C'est-à-dire que, oui, les soignants sont sachants au sens où ils possèdent un certain savoir qu'ils ont étudié, et aussi du fait du nombre de gens qu'ils ont vus, hein, de l'expérience. Mais chaque personne est son propre sachant. Et c'est assez fréquent qu'on puisse, en parlant avec les gens, leur dire, ben, là, dans cette situation, la nécessité de prendre un traitement ou pas, et, ou de changer la dose, ou de choisir la dose, c'est vous qui êtes le mieux placé, puisque c'est vous qui ressentez les effets. Donc, oui, il y a une inégalité de savoir, mais si on fait attention, cette inégalité, elle peut être dans les deux sens.
On n'en dit pas plus, puisque voilà, on a défriché un petit peu ce qui pouvait vous attendre, auditeurs, auditrices, sur la foire Biocibel avec, donc c'est le chapiteau 2 où Jean Dubovetsky interviendra. C'est le dimanche à 14h. On rappelle, Biocibel, c'est le dimanche et le lundi, à ne pas confondre. C'est un week-end spécial, puisque c'est le week-end du lundi de Pentecôte qui est férié. Merci beaucoup.
Au revoir.
Michel Bénard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes membre du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest et vous serez donc sur la foire Biocibel 2022 accompagné de deux paysans reconnus en maladie professionnelle par la MSA. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu en quelques mots l'historique de ce collectif ?
L'association. Donc, l'association a démarré en 1975 dans le soutien à des salariés d'une grosse coopérative bretonne qui s'appelait Trescalia à l'époque, et qui ont été intoxiqués par des pesticides sur leur lieu de travail. Donc, je passe les détails, ça nous avait scandalisés. On avait commencé par faire des réunions de soutien. Et à l'angle de faire des réunions de soutien, il y a un noyau qui s'est constitué et on s'est créé en association. Et on s'est créé en association en 2016. Donc aujourd'hui, on est en 2022 et l'association a aujourd'hui presque 400 adhérents, pour l'essentiel sur la Bretagne et les Pays de Loire. Voilà. Et c'est une association où nous ne sommes que des bénévoles. Et nous refusons toute subvention. Pour garder d'une part une indépendance par rapport à toutes sortes de pressions, et d'autre part pour avoir notre énergie investie uniquement sur les objectifs de l'association. Alors les objectifs de l'association, l'objectif à terme, c'est l'interdiction des pesticides. On n'aime pas les pesticides de synthèse, et donc on se bat pour qu'un jour les pesticides, on ait une agriculture sans pesticides. Et concrètement, notre action, elle est sur dans deux directions. La première, c'est le soutien aux gens qui sont malades ou victimes des pesticides, donc qui ont des maladies liées à l'usage par eux-mêmes des pesticides. Donc pour l'essentiel des paysans, mais aussi des paysagistes, des employés d'espaces verts, des salariés de coopératives ou enfin, de gens qui vendent ou qui utilisent des pesticides. Donc ça, c'est notre premier objectif. Et le deuxième, piste d'action. Et la deuxième, c'est la protection des riverains, donc le soutien aux riverains qui en ont marre d'être arrosés en limite de propriété par les pesticides du voisin, de l'agriculteur en règle générale voisin.
Alors on imagine que c'est des combats juridiques aussi. Il faut être entouré d'avocats. J'imagine que c'est
entouré. Non, il suffit d'en avoir un bon.
Oui.
C'est notre cas. Donc, en quoi ça consiste le soutien aux victimes des pesticides ? On agit dans le cadre des tableaux de maladies professionnelles, pour l'essentiel du régime agricole, mais aussi du régime général. Il y a des maladies qui sont reconnues comme étant liées aux pesticides. Donc c'est un Parkinson, qui a été reconnu en 2012, ensuite les lymphomes, les myélomes, les leucémies, les hémopathies, et récemment, en décembre dernier, le cancer de la prostate. Donc, comme la MSA n'informe pas volontairement les ayants droit de leurs droits, on fait ce travail d'informer les gens que s'ils ont utilisé des pesticides et qu'ils ont telle et telle maladie, ils peuvent être reconnus en maladie professionnelle. L'intérêt d'être reconnu en maladie professionnelle, nous, c'est notre le premier point, c'est notre motivation, à savoir montrer que ces produits-là tuent, rendent malades et tuent des gens, des vastes et des familles, parce que en général, après avoir travaillé, c'est souvent vers les 60 ans que la maladie se déclare, parce que c'est des maladies qui mûrissent tranquillement. Et le deuxième intérêt, donc, c'est montrer que ces produits sont dangereux, toxiques, poisons, et qu'il faut s'en débarrasser au niveau agricole. Et deuxième intérêt de déclaration maladie professionnelle, ça permet aux gens de toucher une rente. Voilà. La MSA ne donne pas l'information parce que d'une part, ça lui coûtera de l'argent, mais aussi surtout parce que la MSA, la Mutualité Sociale Agricole, est gérée par la FNSEA qui, syndicat qui est un gros défenseur de l'usage des pesticides.
Voilà, merci Michel. On a défriché un peu le pourquoi de votre présence à BioCibel cette année. Donc le combat de la reconnaissance comme maladie professionnelle avec des témoignages et donc des questions qui pourront se poser à vous et aux paysans qui vous accompagneront. On donne donc rendez-vous aux auditeurs et auditrices sur ce salon de BioCibel 2022 sur le chapiteau 2 le dimanche à 16h pour ce sujet sur les pesticides. Merci encore Michel.
Merci.
J'assaisonne moi-même mes plats aux pesticides. Les pesticides, c'est tellement meilleur. J'assaisonne moi-même mes plats aux pesticides. Les pesticides, c'est le bonheur. Fini le curry, fini la coriandre. Bien sûr, ceci peut vous surprendre, mais je préfère quand c'est agrochimique. Et je rajoute tout un tas de produits magiques: néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le clothianidine, le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore! J'adore! Venez goûter mes petits plats aux pesticides. Les pesticides, c'est tellement meilleur. Venez goûter mes petits plats aux pesticides. Les pesticides, c'est le bonheur. Y'a pas à dire, c'est excellent. Pitié, plus de flan caramel sans anticoagulant. On est les champions de la pâtisserie en France. Et on compense l'excès de levure par régulateur de croissance.
Néonicotinoïdes, l'imidaclopride, le clothianidine,
le sulfoxaflore, l'organophosphate, le benzimidiazole, le dithiocarbamate. J'adore! Oh oui, j'adore!
Merci au groupe Obscur Feuillage pour cet assaisonnement peu digeste. On est toujours dans l'émission Gardarem la Terre sur Radio Albitzès et Erdotan. On parle de la 40e édition de la foire BioCibel les 5 et 6 juin prochains à Groyer. Après la thématique santé, avec, je le rappelle, un rendez-vous le dimanche à 14h autour du médecin Jean Dubovetsky. Et le dimanche à 16h autour de Michel Bénard et des victimes des pesticides, on parle maintenant énergie avec Enercop qui sera à retrouver le lundi à 11h du matin sur la foire BioCibel. Loïc Blanc, bonjour.
Bonjour.
Alors Loïc, vous faites partie de la coopérative Enercop Midi-Pyrénées, c'est bien ça?
Tout à fait, depuis la co-création d'ailleurs de cette coopérative en 2015.
Vous serez donc présent sur le forum Énergie Alternative sous-titré « Les voies de résilience de l'énergie citoyenne face à un secteur en crise ». Ça sera le lundi 6 juin à Groyer, à BioCibel, donc sous la tente forum. Avec vous, il y aura des initiatives citoyennes, justement, Carmosine et Gaillacoise, je crois. Et vous avez une certaine expertise de ce que peut être une énergie citoyenne. Déjà, peut-être définir ce qu'est Enercop. Dans COP, on entend coopérative. Qu'est-ce que c'est qu'une coopérative d'énergie?
Alors, une coopérative d'énergie, c'est un long chemin qui date maintenant depuis la libéralisation du marché d'énergie dans les années 2005-2007. Et c'était une troisième voie entre, on va dire, le monopole d'État public et évidemment la libéralisation hypercapitalistique qui a engendré d'ailleurs des oligopoles et des multinationales de l'énergie. C'était une troisième voie pour impliquer les collectivités locales et les citoyens sur les enjeux énergétiques. Et on voit qu'aujourd'hui, les faits nous donnent raison sur ce bien commun qu'est l'énergie. Et l'idée, donc, c'était vraiment une appropriation des enjeux d'énergie pour le bien commun, en remettant en lien à la fois les territoires qui sont les lieux de production d'énergie et les consommateurs qui sont pour la plupart des citoyens, mais aussi en impliquant les collectivités locales dans leur rôle évidemment de puissance publique et d'acteur majeur de l'aménagement du territoire. Donc c'était vraiment de remettre autour de la table des aussi avec évidemment les producteurs d'énergie renouvelable, et de remettre autour de la table tous ces intérêts un peu j'allais dire divergents, et de trouver l'intérêt collectif. Et la chance qu'on a eue, c'est que on a utilisé un statut juridique, hein, l'ERCOP c'est un réseau de 11 coopératives d'intérêt collectif, c'est-à-dire 11 sociétés commerciales, mais qui ont un volet coopératif, cet intérêt collectif qui leur permet d'avoir toutes les parties prenantes associées à la gouvernance en décorrélant le capital du droit de vote sur le principe du personne une voix, et d'autre part en ayant une lucrativité limitée, c'est-à-dire que ce qu'on cherche évidemment pas de spéculer et de faire des marges très importantes, ce qu'on cherche c'est le prix le plus juste de l'énergie, et à la fois pour les consommateurs et les producteurs, et donc d'être dans une démarche où on va limiter la lucrativité pour réinvestir les bénéfices au moins à hauteur de 60% dans l'objet social de la coopérative. Donc on est vraiment dans une hybridation de l'économie. Nous on appelle ça l'économie normale, c'est-à-dire qu'on va chercher d'abord l'intérêt collectif avant d'aller chercher évidemment des intérêts individuels. C'est ça et ENERCOP sur la question de l'énergie, mais évidemment ça transcende l'énergie puisque on travaille évidemment dans tous les secteurs, que ce soit sur la question de la mobilité, la question de l'alimentation, la question même du numérique, puisque l'énergie est présente partout. Et d'ailleurs, on a formé aussi un collectif qui s'appelle les Licornes, avec deux O, pour contrecarrer un peu cette Startup Nation de licornes valorisées à des milliards de dollars, pour dire qu'en fait, il y a déjà en fait des alternatives qui existent et dont la valeur n'est pas forcément la valeur économique du profit, mais une valeur sociale et environnementale très forte. Et on associe dans ces licornes justement un peu tous ces secteurs de mobilité, de télécom, de circuits courts, d'énergie, pour montrer que ces alternatives existent et qu'elles peuvent se faire avec les citoyens et avec les territoires.
Alors justement, vous n'êtes pas donc un fournisseur de services ou un fournisseur d'électricité, mais le modèle société coopérative d'intérêt collectif, on l'a dit, en fait, il se finance notamment par du sociétariat, c'est-à-dire que les gens prennent des parts sociales et ils mettent au capital, en fait, c'est un capital, c'est une copropriété. Quelque sorte.
Alors, tout à fait, les sociétés coopératives d'intérêt collectif ont des sociétaires, et ce sont ces sociétaires qui apportent le capital. Donc, si on prend l'exemple d'ENERCOP Midi-Pyrénées, on a été créé en 2015. On fait donc partie du réseau ENERCOP, qui a été créé évidemment historiquement à Paris, comme je disais, lors de la libéralisation du marché de l'énergie. ENERCOP à Paris a l'agrément fournisseur d'électricité, donc c'est lui qui est le fournisseur d'électricité, et nous on travaille sur les territoires à faire ce lien entre la fourniture et la production. Et effectivement, notre coopérative, comme celle de Paris d'ailleurs, appartient à ses sociétaires, qu'ils soient de simples citoyens, acteurs physiques, ou collectivités locales, ou même entreprises, TPE, PME, etc. Sur le principe, une personne, une voix. Alors évidemment, les salariés sont évidemment associés, hein, on est une coopérative, donc historiquement, les salariés sont des parties prenantes. Mais l'intérêt aussi, c'est que évidemment, on a beaucoup plus de consommateurs que de salariés. Donc, chaque sociétaire, suivant son lien et son statut au sein de la coopérative, va être catégorisé. Et il y aura une pondération des collèges dans les droits de vote, puisque, comme je disais, il y a beaucoup plus de consommateurs que de salariés. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse donner, par exemple, 10% des droits de vote au collège salarié et 20% ou 30% des droits de vote au collège consommateur, etc. La spécificité aussi, c'est que par exemple en Midi-Pyrénées, on a créé une catégorie de sociétaires particuliers. Ce sont ceux qui participent à des projets de production et de consommation sur leur territoire pour vraiment qu'ils puissent eux-mêmes travailler si possible la gouvernance de ces projets sur leur territoire. Parce que l'Enercom Midi-Pyrénées, c'est quand même 8 départements, c'est quand même très grand. Et tout l'enjeu pour nous, on a 4000 sociétaires aujourd'hui qui portent la coopérative, qui ont apporté plus de 2 millions d'euros de capital, ce qui est quand même pas rien, qui nous a permis d'investir depuis la création. On a investi plus, nous, concrètement, plus de 2 millions d'euros dans des nouveaux moyens de production d'énergie renouvelable. Donc cette organisation nous permet de nous déployer au plus près des territoires et de laisser une grande autonomie à nos sociétaires en leur apportant un appui logistique, que ce soit en termes techniques, de connaissances, de formation, de communication, etc., pour qu'ils aient toutes les ficelles, tout ce qu'il faut pour s'approprier les enjeux de l'énergie sur leur territoire et essayer d'apporter des solutions, soit en créant effectivement leur propre projet, soit en s'appuyant sur la coopérative pour faciliter leur projet.
Voilà, le but, j'imagine, c'est pas de faire grossir Enercop Midi-Pyrénées, mais d'essaimer et de faire en sorte que des projets comme il sera question sur ce forum avec COP de Sceaux dans le Carmozin ou Écotte 81, des citoyens convainquent peut-être des élus et tous ensemble, avec l'accompagnement d'Enercop, commencent à faire des choses, des projets concrets, installer des panneaux solaires, voir comment on distribue l'électricité, etc. En fait, réapproprier le savoir là-dessus, quoi.
Tout à fait, on n'a aucune vocation hégémonique. Ce que l'on fait historiquement, c'est soit effectivement nous impulsons nous-mêmes des projets sur les territoires, et puis en impliquant toutes les parties prenantes, ce qui permet déjà de montrer des exemples concrets. Soit c'est effectivement des collectifs seuls ou des collectifs avec des collectivités qui ont déjà des idées et qu'on va accompagner tout au long de leur projet. Et on leur amène effectivement aussi un regard très différent de ce qui se pratique, on va dire, dans l'économie dominante, puisqu'on va parler de partage de valeur, de comment on valorise l'énergie aujourd'hui, et leur donner toutes les clés pour qu'ils comprennent bien ce secteur d'activité qui est quand même très complexe, très réglementé, et qui aujourd'hui en plus est en crise, d'un point de vue des marchés de gros de l'énergie, mais justement où on essaie d'apporter nous une logique un peu différente de ce court-termisme spéculatif du marché de l'énergie, puisque toutes nos démarches s'inscrivent vraiment dans une logique de long terme qui s'inscrit sur la durée de vie des moyens de production. Donc le plus simple, on va parler du photovoltaïque. Donc effectivement, on a beaucoup de collectifs maintenant, que ce soit dans le Tarn mais aussi dans tout Midi-Pyrénées, qui ont créé des unités de production sur les toitures publiques. On a aussi aidé des collectifs maintenant à créer des petits parcs solaires au sol, ce qu'on appelle nous des parcs solaires villageois ou de taille villageoise. Mais on accompagne aussi des projets plus conséquents, hein, type éolien, puisque l'avantage des énergies renouvelables, c'est qu'elles sont vraiment accessibles à tout un chacun. À partir du moment où on arrive à créer une dynamique locale, c'est pas la technique, c'est pas le montage juridique, c'est pas le montage financier qui sont compliqués, pas du tout. Contrairement, j'allais dire, à des collectifs citoyens qui aimeraient monter des centrales nucléaires ou des centrales à charbon ou au gaz, là ils se confronteraient effectivement à des grosses problématiques techniques, ce qui n'est pas du tout le cas des énergies renouvelables. Donc il y a tout cet enjeu de démystifier aussi que ces gros projets d'envergure, parce que même ne serait-ce qu'une éolienne, c'est un projet conséquent. Il y a certains parcs au sol aussi qui peuvent être conséquents, malgré ces unités de production qui peuvent être importantes. Il faut démystifier en disant que c'est tout à fait possible que ce soit porté par le territoire et que la problématique n'est ni réglementaire, ni, j'allais dire, l'argent, puisqu'on peut facilement collecter l'épargne des citoyens et recréer la valeur localement, mais elle est plutôt dans oser le faire et avoir une volonté aussi politique locale qui permette de faciliter tous ces projets. Donc c'est pourquoi, en fait, on dit qu'Enercop Midi-Pyrénées est un outil, vraiment un outil au service des citoyens et des collectivités locales. C'est aussi un outil pour les entreprises, parce que on voit très bien que notre apport, il est complètement désintéressé d'une logique classique, économique classique. Les collectivités, les citoyens, les entreprises peuvent s'appuyer sur nous pour aller défricher des nouveaux enjeux. Et nous-mêmes, par la force que nous apportent nos sociétaires, ça nous permet d'aller chercher et d'innover dans les nouveaux usages de production et de consommation. On est notamment pas mal experts en autoconsommation. On a monté d'ailleurs la première opération d'autoconsommation collective en Occitanie en 2018. Et là, on va inaugurer d'ailleurs en mois de mai une des plus grandes opérations d'autoconsommation collective en France, qui est adossée à un parc solaire. Donc on est vraiment aussi sur ces questions de vraiment circuit court, de boucle locale d'énergie, de communauté énergétique, et ça prend tout son sens aujourd'hui, vraiment, à l'aune, bien évidemment, des événements qu'on connaît, hein, que ce soit la crise post-Covid et qui s'intensifie aujourd'hui avec les événements en Ukraine. Ça pousse de plus en plus à agir sur les territoires, et on sait très bien que les collectivités et les citoyens ont un rôle majeur pour la transition énergétique, et que la crise qu'on voit là aujourd'hui, elle renforce cette nécessité, de repenser notre modèle énergétique de façon à ce que l'énergie qui est consommée soit la plus locale, la plus résiliente possible sur les territoires, pour vraiment avoir un développement, et ça c'est vraiment important, un développement équilibré, responsable des territoires, pour éviter qu'on fasse porter qu'au milieu rural tous les impacts qu'ont l'implantation d'unités de production d'énergie renouvelable, parce que ça a des impacts, c'est l'énergie verte, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des impacts sur l'environnement, sur évidemment le politique, sur les liens sociaux, sur l'économie, bien entendu. Donc l'énergie dite verte, voilà, il faut la prendre dans une globalité comme quelque chose qui a un impact, mais qu'on doit le plus équilibré possible et le rendre le plus responsable et résilient possible sur les territoires. Donc il y a toute cette mécanique, ce message qu'on essaie de faire passer à la fois aux citoyens et évidemment aux élus.
Voilà, et tout en gardant en tête que la sobriété énergétique, c'est aussi quelque chose à viser, c'est pas juste produire pour produire. En tout cas, merci Loïc Blanc pour ces éclaircissements. On en saura un peu plus sur le forum énergie alternative de Biocibel. Je rappelle que c'est le lundi 6 juin à 11h du matin que donc Biocibel, les organisateurs de la foire, vous proposent donc ce forum avec donc vous et Enercop, la COP de Sceaux et Côte 81, et puis tous les citoyens qui voudront témoigner de leur expérience ou ceux qui voudront poser des questions sur comment ça se passe tout ça et comment on peut agir sur notre territoire au niveau de l'énergie. Merci encore Loïc Blanc et on vous souhaite une bonne continuation.
Ben, merci beaucoup pour votre accueil et n'hésitez pas effectivement à venir discuter, poser toutes vos questions. Il n'y a aucun tabou, tout doit être transparent sur les questions énergétiques et sur les modèles décentralisés et coopératifs. C'est un enjeu majeur que de pouvoir clarifier tout ça.
Merci encore.
Merci.
C'est la fin de cette émission Gardarem la Terre. Merci à Jean Dubovetsky. À retrouver le dimanche 5 juin à 14h autour de la question « C'est quoi être en bonne santé ?». Merci à Michel Bénard. À retrouver toujours le dimanche 5 juin à 16h autour des victimes des pesticides. Merci enfin à Loïc Blanc d'Enercop, coopérative qu'on retrouvera le lundi 6 juin à 11h du matin sur la foire Biocibel, donc, qui se passe au parc de la Bousquetariée à Grouillet. C'est ouvert à tous et toutes. L'entrée est libre et rappelez-vous que si vous voulez avoir le programme complet ou si vous souhaitez devenir bénévole pour la foire Biocibel, rendez-vous sur le site nptarn.org ou par téléphone 05 63 57 60 00, 05 63 57 60 00 ou encore par mail contact@nptarn.org. On se retrouve bientôt avec d'autres intervenants des chapiteaux conférences de Biocibel 2022, avec notamment Paul Ariès, Jacques Généreux, Michel Dalmé, la CRIRAD, Mireille Bruyère et des membres d'Habitat Participatif. Adiciats. C'était Gardarem la Terre, une émission produite par Radio Albitzes et diffusée sur Albitzes et Erdotan.